Vous êtes avec SBS French.
Le 6 août 1945, une bombe atomique, la première bombe atomique de l'histoire, explosée sur Hiroshima. Donc, 76e anniversaire aujourd'hui, et aussi le premier anniversaire du traité international sur l'abolition des armes nucléaires. Pour en discuter, j'ai en ligne M. Jean-Marie Collin, spécialiste en désarmement nucléaire. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Et voilà, donc nous sommes à un moment historique où nous observons un anniversaire assez triste dans l'histoire du monde avec la double explosion d'armes atomiques sur le Japon en 1945, le 6 août, et deux jours plus tard, donc après Hiroshima, Nagasaki. Quelle est la situation aujourd'hui après tant d'années et après un traité international qui est plutôt mal respecté?
Déjà, c'est essentiel que chaque année, on commémore ces événements dramatiques, les explosions, des bombardements nucléaires des villes de Hiroshima et de Nagasaki. La mémoire est un élément essentiel pour perpétuer ce souvenir, honorer les personnes, les populations civiles qui sont décédées. Donc, c'est extrêmement important et le Japon le fait, bien sûr, mais à travers le monde, il y a des dizaines, voire des centaines de commémorations ou d'actions pour se souvenir de ce drame. Et cette année, vous l'avez souligné, est une année particulière. C'est la première année où on commémore ces événements et où, en même temps, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires est en vigueur, puisque ce traité est entré en vigueur depuis le 22 janvier 2021. C'est un traité qui interdit globalement les armes nucléaires de la menace d'emploi à l'utilisation, bien sûr, mais aussi sur les questions des banques, sur le placement d'armes nucléaires sur d'autres territoires. Donc, c'est vraiment un instrument global et qui vient compléter d'autres instruments, et notamment le traité de non-prolifération nucléaire. Et on peut observer qu'il y a une dynamique qui est plutôt positive, malgré les complexités de ce traité, mais on doit regarder les aspects positifs de ce traité et la volonté d'une majorité des États du monde qui ont signé ou déjà adhéré à ce traité.
Ce traité, je disais, il est plutôt mal respecté, parce que les principaux pays détenteurs de l'arme nucléaire, on se souvient pendant la guerre froide, il y avait cette théorie ou ce concept de MAD, Mutual Assured Destruction, donc la destruction mutuelle assurée. Et aujourd'hui, la doctrine a changé il y a 3, 4, 5 dernières années. Il y a plutôt une certaine, les armes atomiques sont considérées avec une certaine légèreté, je dirais.
Je ne dirais pas qu'elles sont considérées avec une certaine légèreté. Je dirais qu'au contraire, l'arrivée, malheureusement, par exemple, du président Trump a fait reprendre conscience à certaines populations, à certains acteurs politiques internationaux, du danger des armes nucléaires, même si ce danger a toujours été le même pendant la guerre froide et aujourd'hui. L'existence actuellement d'un peu plus de 13 000 armes nucléaires fait peser un danger majeur, un danger équivalent au changement climatique, qui sont vraiment, avec ce changement climatique, les deux mots MAUX de notre 21e siècle. Évidemment, les puissances qui détiennent des armes nucléaires n'ont pas encore signé ou adhéré à ce traité. Mais ce qu'il faut observer, c'est qu'il existe une pression qui est intense sur ces États. Par exemple, pour parler de la France, un État que je connais bien, y travaillant, vous avez 52 villes françaises, dont la capitale, qui ont signé un appel pour soutenir la création de ce traité. Vous avez 31 parlementaires qui soutiennent aussi ce traité. Donc, il n'y a pas une attitude, il y a une attitude de pression en interne quand même de la part des élus auprès du gouvernement français. Et puis international, comme je le disais, il y a aujourd'hui 55 États qui ont ratifié ce traité, dont des anciennes puissances nucléaires, et il faut le souligner, l'Afrique du Sud, le Kazakhstan, par exemple, des États qui sont toujours été très engagés contre les armes nucléaires, la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica, le Mexique, des États qui ont été affectés par les essais nucléaires et qui vont bientôt ratifier, l'Algérie, par exemple, qui a fait des avancées importantes. Donc, on est dans une dynamique positive, on est devant évidemment un sujet complexe. Mais l'année prochaine, en janvier 2022, se tiendra la première conférence des États parties, donc des États qui sont membres de ce traité. Et on sait que ça va encore créer une dynamique et une pression plus forte, puisque par exemple des États qui sont membres de l'OTAN, donc une alliance militaire qui soutient la politique de dissuasion nucléaire, vont participer à cette conférence comme observateurs, mais ce qui montre bien une prise de conscience et une obligation aussi de leur part de respecter, que ce soit le droit international humanitaire, leurs différents engagements à travers l'ONU. Bref, aller à l'encontre de ce traité, c'est véritablement aller à l'encontre de la bonne marche de l'histoire.
Le président Trump a été un des gros catalyseurs de ce mouvement de relance nucléaire, mais avant lui, il y avait aussi le président Bush avec la NPA, la Nuclear Posture Review, qui a revu les armes stratégiques nucléaires, et même Obama qui a modifié la posture des États-Unis en renouvelant, en fait, en mettant en avant une politique de renouvellement de l'arsenal nucléaire. Et à côté, on a la Russie, je ne sais pas très bien ce qui se passe de ce côté-là, mais on a tendance à croire, parmi les observateurs, une certaine reprise d'une course à l'armement nucléaire, en quelque sorte, parce qu'on voit aussi de plus en plus un discours des armes, du recours aux armes nucléaires tactiques, des mini-nukes et des bunker busters, ces armements nucléaires qui peuvent être utilisés sur des théâtres de combat conventionnels. Donc l'épée de Damoclès passe quand même toujours sur notre tête.
Oui, bien sûr, le danger n'a jamais changé, que ce soit sous l'ère du président Bush, du président Obama ou du président Trump, et aujourd'hui du président Biden, si on se limite aux États-Unis ou Poutine ou Boris Johnson, par exemple. Tous ces États conservent, quels que soient leurs différents présidents qu'ils ont eus sur ces 20 ou 30 dernières années, des arsenaux nucléaires majeurs. Tous, malheureusement, sont engagés dans une véritable course aux armements où les milliards, on est dans une centaine de milliards de dollars qui ont été dépensés en 2020 et autant et un peu plus qui seront dépensés cette année encore. Donc, c'est là où on a un véritable problème, effectivement, c'est que ces États et leurs dirigeants politiques actuellement ne comprennent pas et ne veulent pas entendre l'appel du reste du monde et la nécessité d'arrêter cette course aux armements et de consacrer véritablement les fonds à une véritable sécurité humaine. Le monde entier est confronté à une pandémie mondiale et on s'aperçoit que dans le même temps, ces États investissent pour aussi finalement mettre en place des plans qui potentiellement peuvent détruire la planète. Donc c'est un véritable non-sens. Le Tian vient répondre à ces différentes problématiques. C'est aussi un appel pour le droit aux générations futures, puisque c'est mentionné à différentes reprises dans ce traité, à bénéficier d'un monde pacifique, sans armes nucléaires, ou d'une capacité à pouvoir vivre dans le même monde que dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et encore une fois, même si la situation est complexe, est tendue, il faut comprendre qu'une majorité des États du monde sont en faveur de ce traité et agissent pour ce traité. Et je pense que en ce jour de commémoration d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qu'il faut pousser pour créer une pression encore plus forte. Et chacun d'entre nous, à tout niveau, un Français, un Américain, un Australien, peut agir en interpellant son maire, en interpellant son parlementaire. Quand on est étudiant, on peut aussi demander à faire une conférence ou à parler un peu plus de ce sujet. Il y a des dizaines de façons extrêmement simples à agir, et la première étant, je pense, la plus importante, à s'éduquer et à s'informer sur ce sujet. C'est ce que je conseillerais à toute personne aujourd'hui pour pouvoir agir sur le désarmement nucléaire.
C'est quelque chose que j'ai lu il y a plusieurs semaines, où le président Biden disait qu'il allait promouvoir les armes nucléaires comme instrument de la paix.
Oui, bien sûr, c'est une remarque qui est souvent mise en avant, c'est-à-dire que les grands États n'ont pas fait de guerre, ou il n'y a pas eu cette troisième guerre mondiale depuis 1945. Penser que la paix est due à l'existence d'armes nucléaires est une ineptie complète. Tout d'abord, ça voudrait dire qu'on évacue tous les efforts qui ont été réalisés par les organisations internationales comme l'ONU, par, si je reste au niveau de l'Union européenne, par l'Europe, par les populations aussi qui n'ont pas souhaité avoir des guerres, par les échanges commerciaux, culturels, économiques. Donc, ce serait évacuer toute cette partie-là. Et puis, c'est aussi faire fi de l'histoire au sens propre. On sait que des États qui ont eu des armes nucléaires, qui ont des armes nucléaires, ont été en guerre ou se sont fait envahir, le cas d'Israël en 1973, le cas des îles Malouines chez les Britanniques. Il y a eu des confrontations directes importantes entre la Chine et la Russie en 1969, entre l'Inde et le Pakistan encore ces dernières années, qui sont toutes des puissances nucléaires. Donc, on voit bien que l'arme nucléaire n'assure pas la sécurité des populations ou des États, mais est bien un élément d'insécurité et d'instabilité et pas un instrument de paix. Si c'était un véritable instrument de paix, alors allons jusqu'au bout. Distribuons cette arme à tout le monde et n'ayons pas peur que la Corée du Nord ou que l'Iran finalement ait des armes nucléaires si c'est pour la fameuse paix. On voit bien que c'est une ineptie à nouveau, pour employer ce mot, totale. L'arme nucléaire est une arme qui vient déstabiliser la communauté internationale, qui vient renforcer la course aux armements, qui engendre des risques potentiels de destruction de notre société, de nos sociétés comme nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, il n'est pas possible de continuer à fonder nos défenses sur ce type d'armement.
Mais c'est un désarmement qui, donc l'action citoyenne a tendance à s'effriter. Je me souviens, en grandissant, en faisant mes études à Bruxelles, et j'ai voyagé un tout petit peu en Europe pendant les années 80, il y avait régulièrement des manifestations étudiantes concernant le désarmement, il y avait des manifestations vraiment populaires qui se déroulaient un peu partout en Europe et aussi dans le monde, mais en Europe où j'étais à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a plus rien qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscientisation des masses?
Alors, je vous dirais encore une fois que c'est pas tout à fait vrai. Certes, vous n'avez plus de grandes manifestations comme vous pouviez en trouver dans les années 60, 70, voire même début des années 80. Vous avez des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui ont pu tenir des concerts à New York ou des grandes marches à Bruxelles ou à Paris. Vous avez raison. Mais vous avez des centaines de milliers de personnes qui font des tweets aujourd'hui. Vous avez des personnes qui, vous voyez, actuellement en France, tient pendant 4 jours différentes manifestations dans 5 ou 7 villes de France à peu près, qui vont réunir chacune 50, 100 personnes, mais c'est une mobilisation à travers toute la France. Et vous avez ce même phénomène actuellement à travers l'Europe, où vous avez sur la plupart des bases de l'OTAN en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, des acteurs aussi de nos campagnes qui manifestent. Et vous avez la même chose en Australie aussi, où je sais qu'il y a des actions qui sont faites. Même pendant cette problématique de la pandémie, par exemple, vous avez des cours en ligne qui ont été organisés par mes collègues de ICANN Australie. Vous avez une ICANN Academy en ligne qui s'organise également à partir du mois d'octobre. Donc, la mobilisation est différente des années 70 et 80, mais elle existe. Et les gens aussi, quand ils se mobilisent finalement contre le dérèglement climatique, contre les pollutions, pour la préservation de l'environnement, au fond d'eux, finalement, il y a aussi une mobilisation sur la nécessité d'un monde sans armes nucléaires. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, on ne souhaiterait pas qu'il y ait beaucoup plus de mobilisation. Mais si je vous donne un autre exemple, vous avez plus de presque 600 villes à travers le monde, je reviens sur cet exemple, qui sont mobilisées pour soutenir le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. C'est autant de millions d'habitants. Et que ce soit Canberra, que ce soit Berlin, que ce soit Berne, que ce soit Washington. Et vous avez aussi des personnes qui font des actions contre leurs banques, par exemple, pour leur demander d'arrêter d'investir. Et là aussi, vous avez des grandes banques internationales, la banque belge KBC, des banques japonaises, des banques en Allemagne, en France aussi, qui commencent à plus ou moins se sensibiliser ou à s'inquiéter de cette démarche de personnes. Donc, il y a une mobilisation, il y a une action. Il faut qu'elle soit encore plus forte, c'est certain, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mobilisation de l'opinion publique internationale sur ce sujet.
Je peux aussi rappeler qu'à Sydney, près de là où j'habitais, dans le quartier, dans la localité de Marrickville, cette localité s'est déclarée « nuclear free city ». Et il y a des panneaux à l'entrée, à la sortie de la municipalité sur les axes principaux où il est clairement marqué « nuclear free city ». Voilà, donc ça, c'est un phénomène qu'il faut soulever. Et peut-être qu'il y a d'autres villes en Australie que je n'ai pas encore vues, mais celle-là, c'est quelque chose que je connais, que j'ai vu, j'ai apprécié moi-même. Et il s'avère que les survivants des bombardements de Nagasaki et Hiroshima ont joué un très grand rôle dans ce mouvement de désarmement nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ou deux?
Oui, les survivants, vous savez, ces personnes ont été témoins de l'histoire avec un grand H. Ces personnes ont vu quelque chose et ont eu besoin à un moment donné de s'exprimer, et nous avons eu besoin aussi de les mettre en avant pour que nous puissions partager leur témoignage à l'égal de ce que malheureusement des milliers, des centaines de milliers de personnes ont pu vivre dans les camps nazis en Europe. On a eu besoin d'entendre leurs témoignages pour comprendre cette réalité et pour qu'il finalement il n'y ait un plus jamais. C'est bien cette volonté-là qu'il n'y ait un plus jamais. Et les témoignages des Ibakusha, ces hommes, ces femmes qui sont aujourd'hui très âgés, et les témoignages aussi aujourd'hui des deuxième, troisième génération, puisque vous avez des petits-enfants qui malheureusement sont aussi atteints de problématiques directement de santé directement issues de 1945, puisque à travers les gènes, parfois, il peut arriver que ces maladies se transmettent, témoignent, expliquent l'horreur de cette journée et l'horreur des journées qui ont suivi. Le 6 août 1945, le 7 août, le 8 août et les mois qui ont suivi furent aussi horribles pour ces populations qui ont dû faire face à des maladies nouvelles, à des souffrances énormes, à une reconstruction, que ce soit mentale, physique, sociétale. Et donc, tous ces éléments sont extrêmement importants à partager auprès de toutes les générations pour qu'il y ait ce plus jamais. En France, par exemple, ce lundi, nous avons un événement avec une survivante d'Hiroshima organisé avec une association japonaise qui s'appelle le Peace Boat et qui va témoigner, qui va expliquer ce qui s'est déroulé. Ce sera aussi un moyen pour éduquer les populations. Donc, l'action de témoignage, l'action de transmettre ces informations est essentielle dans notre campagne et est soulignée par le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui rend hommage à ces populations ainsi qu'à toutes les victimes des essais nucléaires, puisqu'elles aussi ont un témoignage important à délivrer pour montrer l'horreur, pour montrer la réalité des armes nucléaires.
Donc, ça, c'est la Ibakusha Appeal, donc, qui aura lieu ce lundi prochain, lundi 9 août. Avant de nous quitter, Jean-Marie, est-ce que le LICAN a un message pour la population ou pour l'occasion de ses anniversaires, quand même assez douloureux pour l'humanité?
Le but de notre message est de mobiliser et d'engager les citoyens à demander à leur gouvernement d'adhérer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et cette action peut être faite, comme je l'indiquais, de façon multiple, en interpellant les maires, les parlementaires, les gouvernements, en demandant à écrire une petite tribune dans son journal local, dans son journal national, en participant à des actions d'éducation, en s'informant. L'important, donc, c'est l'information et finalement mettre en parallèle les milliards de dépenses qui sont réalisées par nos États dans cet armement nucléaire avec les faibles dépenses ou trop faibles dépenses pour protéger notre environnement, pour faire face aux pandémies et se demander finalement, est-ce que c'est encore normal en 2021 que nos États assurent la défense de populations avec une arme de destruction massive qui a pour objectif de tuer une autre population civile? Je pense que c'est la véritable question que l'on doit se poser aujourd'hui.
Jean-Marie Collin, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de faire le point sur cette commémoration, un événement qui éveille la communauté internationale à ces armes de destruction massive, les vraies, en fait, les seules, celles que l'on connaît le mieux, en fait.
Exactement.
Ok, au merci, revoir. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.